rénov'habitat.fr, le service public de la rénovation de l'habitat.
De prime abord, personne ne déprime à l'idée de recevoir une prime. En prime, une prime, c'est une bonne nouvelle.
En ce moment, chez Nissan, la très bonne nouvelle, c'est la prime à l'hybride jusqu'à 7000 euros. Oui, 7000 euros. Pendant les jours hybrides Nissan, ne manquez pas cette prime exceptionnelle sur tous les crossovers hybrides Nissan Juke, Qashqai et X-Trail. Rendez-vous vite en concession Nissan pour en profiter.
Nissan.
Remis jusqu'à 4000 euros sur Juke Hybrid, 5000 euros sur Qashqai et 7000 euros sur X-Trail 9, identifié en stock jusqu'au 30 juin par rapport au prix au 1er mars. Détail Nissan.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Europe 1, il est 20h.
Europe 1 soir week-end.
19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin.
Le journal Maël Laurent.
Et on va revenir très largement sur la situation toujours aussi tendue au Proche-Orient. Israël a poursuivi aujourd'hui ses attaques contre des sites militaires et nucléaires iraniens. On fera le point avec notre correspondant en Israël dès le début de ce journal. Une offensive israélienne en Iran qui vient percuter l'agenda diplomatique d'Emmanuel Macron. Le président français contraint de reporter la conférence qu'il voulait organiser la semaine prochaine aux États-Unis. Une conférence visant à la reconnaissance d'un État palestinien. On en parlera également. Et puis la météo, 18 départements du centre et du quart nord-est du pays sont placés en vigilance orange ce soir par Météo France. Vigilance pour cause d'orages, des orages qui ont fait un mort et un blessé grave hier en région parisienne.
Et justement, Tony Kazmarek, cette tendance orageuse va-t-elle se poursuivre demain?
Oui, encore avec des orages parfois violents. Demain après-midi notamment, cette fois entre les Cévennes, la vallée du Rhône et la plaine d'Alsace. Ce sera beaucoup plus calme et beaucoup plus respirable sur un large quart nord-ouest avec moins de 25 degrés, mais encore 30 à 34 près de la Méditerranée.
Et météo complète à la fin de ce journal.
Europe 1.
L'armée israélienne frappera tous les sites et les cibles du régime des ayatollahs en Iran.
Déclaration ce samedi du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui s'est félicité, Frédéric Simon, d'avoir déjà réussi à porter un véritable coup au programme nucléaire iranien.
Alors, incontestablement, un coup a été porté, mais il est difficile à l'heure qu'il est d'en évaluer l'ampleur. On sait que plusieurs centrales nucléaires, notamment celles de Natanz et d'Isfahan, ont été sérieusement endommagées, voire partiellement détruites. Mais les installations d'enrichissement d'uranium sont pour la plupart profondément enfouies sous terre. Et il est peu probable que l'aviation israélienne dispose des armements nécessaires à les atteindre. Un point faible qu'Israël a cherché à compenser en tuant plusieurs scientifiques spécialisés. Leur mort pourrait porter un coup sévère aux avancées de l'Iran vers la de la bombe nucléaire. Le haut commandement militaire iranien, quant à lui, était presque entièrement décapité, puisqu'on signale la mort du numéro 1 des gardiens de la révolution, de la plupart des généraux d'aviation et du chef d'état-major de l'armée. Un autre objectif central de l'offensive israélienne, l'arsenal de missiles balistiques dont dispose l'Iran. Il aurait été en partie détruit, même si Téhéran dispose encore de nombreux projectiles capables d'atteindre le territoire israélien.
Frédéric, sur le sol israélien, ce sont de nouvelles alertes qui seraient en cours ce soir.
Ouais, alors on s'attend en Israël à ce que les tirs de missiles iraniens reprennent dans la soirée et au cours de la nuit. L'armée israélienne intensifie ses frappes en ce moment même, probablement pour perturber cette nouvelle contre-offensive iranienne. Depuis hier soir, l'Iran a lancé 200 missiles environ. Selon l'armée, plus de 90% ont été interceptés par la défense antiaérienne. Un dispositif efficace, mais qui peut être submergé lorsqu'il doit faire face à de telles quantités de projectiles. C'est ce qui s'est passé hier soir et ce matin, puisque plusieurs immeubles d'habitation ont été presque entièrement détruits dans la banlieue de Tel Aviv. Le bilan humain est lourd. 2 personnes tuées ce matin, une autre hier soir et des dizaines de blessés, dont certains dans un état grave.
Merci Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en Israël. Vous étiez en direct de Tel Aviv. Conséquence de cette situation particulièrement tendue entre Israël et l'Iran, la participation de Téhéran aux négociations autour de son programme nucléaire avec Washington est pour l'heure tout à fait incertaine. De nouveaux pourparlers sont prévus à Oman demain, mais ceci n'ont, je cite, pas de sens. Ce sont les déclarations d'un haut responsable iranien. Emmanuel Macron demande formellement ce soir à son homologue de revenir rapidement à la table des négociations sur ce programme nucléaire. Offensive israélienne en Iran toujours et ses conséquences en France. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, demande au préfet d'accroître la vigilance autour des lieux de culte, de rassemblements festifs ici en France, des intérêts israéliens et américains sur le territoire également. Des conséquences également sur le plan diplomatique, cette fois pour Emmanuel Macron. Le président avait prévu de se rendre mercredi à New York aux Nations Unies pour participer à une conférence consacrée à la reconnaissance de la Palestine. Conférence qui devait être co-présidée par la France et l'Arabie Saoudite, mais elle n'aura finalement pas lieu. Les détails avec Jacques Serret.
Ces dernières semaines, les diplomates français s'affairaient en coulisses à démontrer le bien fondé d'une potentielle reconnaissance de l'État palestinien. Et Emmanuel Macron préparait cette conférence depuis des semaines, mais elle est annulée.
Quel sens aurait une telle conférence où le président de l'autorité palestinienne devait prendre verbalement des engagements forts si tous les dirigeants de la région, pour des raisons évidentes, sont tenus chez eux? Donc c'est juste des raisons pragmatiques et de la pure lucidité.
Un contretemps loin d'être négligeable pour le locataire de l'Élysée, très mobilisé sur ce dossier. Malgré cela, il veut toujours aller au bout de ce processus.
La dynamique créée par cette conférence est une dynamique inarrêtable. D'abord parce que nous avons obtenu des engagements historiques de l'autorité palestinienne qui a enfin reconnu et condamné les attaques terroristes du 7 octobre, qui s'est engagée comme elle ne l'avait jamais fait dans sa volonté de créer les conditions politiques sécuritaires des deux États et d'une sécurité régionale.
Dès que les conditions sécuritaires nous le permettront, nous le ferons, promet Emmanuel Macron, sans toutefois s'avancer sur une nouvelle date.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron qui doit donc reporter son déplacement à New York, mais qui a maintenu en revanche ce déplacement au Groenland. Il se rend demain sur ce territoire autonome du Danemark pour dire non à Donald Trump. Depuis plusieurs mois, le président américain menace de prendre possession du Groenland d'une manière ou d'une autre, sans exclure le recours à la force. Il faut dire, Johan Modek, que ce vaste territoire dispose de ressources particulièrement convoitées.
Oui, l'île dispose notamment d'un souterrain très riche en terres rares, pour l'instant presque non exploitées, et qui ont l'avantage pour les Occidentaux de se trouver en dehors de la sphère d'influence de la Chine, comme l'explique Patrick Martin Jeunier, spécialiste des questions européennes et internationales.
Le Groenland possède 24 des 35 minerais rares qui sont nécessaires à l'évolution de la transition énergétique. Donc ces minerais rares sont tellement importants qu'ils suscitent l'intérêt naturellement des Américains, mais aussi des Chinois, qui souhaitent investir également.
Et le chercheur le souligne, il y a un autre facteur qui fait du Groenland un territoire très important pour les États-Unis et leurs concurrents, c'est sa position.
Ce territoire est un passage obligé dans cette partie du globe pour aller aux États-Unis, notamment sur le plan commercial, mais également avec des navires militaires, des sous-marins militaires, notamment russes, qui peuvent porter des objets nucléaires. C'est aussi sur le plan aérien un passage très important.
Les États-Unis disposent d'ailleurs d'une base militaire active sur l'île depuis la Seconde Guerre mondiale, qui encore aujourd'hui est un maillon essentiel de leur bouclier antimissile. Et enfin, Donald Trump table sur l'ouverture de nouvelles voies maritimes commerciales dans la région avec la fonte des classes.
Johan Bodek pour Europe 1.
Il est à 20h07 sur Europe 1, l'initiative israélienne en Iran qui contraint Emmanuel Macron et qui effraie Volodymyr Zelensky.
Oui, le président ukrainien redoute que le conflit en cours entre l'Iran et Israël ne vienne réduire l'aide occidentale en Ukraine, au moment précis où Kiev réclame davantage de livraisons pour faire face aux frappes russes. Volodymyr Zelensky, qui reproche par ailleurs à Washington d'être actuellement trop conciliant avec Moscou, dénonçant notamment la réticence à imposer de nouvelles sanctions à la Russie de la part des États-Unis. Aux États-Unis, justement, une élue démocrate de l'État du Minnesota et son mari ont été tués à leur domicile il y a quelques heures. Bonsoir Rémi Amalvi, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis et selon les premiers éléments de la police, ce couple aurait été délibérément visé.
Oui, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a dénoncé un meurtre politique. Melissa Ortman, 55 ans, était élue et ancienne présidente de la Chambre des représentants de cet État du nord du pays. Elle et son mari ont été tués par balle alors qu'ils se trouvaient chez eux dans la localité de Brooklyn Park. Un autre élu démocrate, le sénateur John Hoffman et sa femme ont également été ciblés. Ils ont, eux, survécu à l'attaque. Le tireur est toujours activement recherché. Selon la police, il s'est présenté au domicile de ses victimes habillé en uniforme de policier. Il conduisait également un SUV qui ressemblait à un véhicule de police équipé d'un gyrophare. Le véhicule a été retrouvé. La police y a découvert une liste de noms de politiques et de fonctionnaires locaux, ceux qui corroborent la thèse de l'assassinat politique. Donald Trump a aussitôt dénoncé une attaque terrible et il a précisé que le FBI se joignait à l'enquête. Ce double meurtre intervient alors que Donald Trump s'apprête à assister à une grande parade militaire, la plus importante du pays depuis plus de 30 ans, un défilé organisé le jour même de ses 79 ans. Le président américain se serait inspiré du défilé des Champs-Élysées du 14 juillet, auquel il avait assisté en 2017.
Rémi Amalvi, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Et puis de la Formule 1 pour terminer. La F1 qui va retrouver le continent nord-américain après trois courses européennes. Ce sera à l'occasion du Grand Prix du Canada. Dixième manche de la saison. Vainqueur à Monaco et à Barcelone. McLaren fait office de favori. Mais attention, Red Bull, Ferrari ou encore Mercedes comptent bien contrarier les leaders du championnat des constructeurs sur une piste particulièrement propice à du grand spectacle. Les qualifications, Pascal, sont à suivre ce soir à 22h sur Canal+.
Grâce à vous, bien sûr. Évidemment. Merci beaucoup, Mel Laurent. Il est 20h09 sur Europe 1. Le temps, Anthony Kazmarek.
Et je vous appelle encore à la plus grande prudence dans les 18 départements en vigilance orange pour un risque d'orage violent ce soir et cette nuit entre le Massif central, l'Auvergne, la région lyonnaise, la Bourgogne, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Demain, en début de journée, on va retrouver encore des orages, le reste des orages de la nuit, sur la Lorraine, et puis d'autres se déclencheront dès le début de la matinée vers Poitou-Charentes, le centre-Val de Loire et sur les Pyrénées. Et puis dans l'après-midi, ces orages risquent encore de concerner le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ils seront parfois violents à nouveau, cette fois plutôt vers les Cévennes, la vallée du Rhône et la plaine d'Alsace. Sur un large quart nord-ouest, c'est-à-dire la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, Poitou-Charentes et la Gironde, dans l'après-midi, vous allez retrouver le soleil, en tout cas de très belles éclaircies, avec quand même quelques passages nuageux et peut-être un tout petit risque d'averse sur la région parisienne, près de la Méditerranée et en Corse. Encore du soleil et de fortes chaleurs dans le sud-est demain, avec encore 30 à 34 degrés, 34 à Montpellier, 31 à Grenoble. Mais ailleurs, ça baisse et c'est beaucoup plus respirable. 26 à Strasbourg, 24 à Dijon, 23 degrés à Paris. Demain, c'est 6 de moins qu'aujourd'hui. 23 aussi à Lille et à Bordeaux, 19 à Brest et 18 à Cherbourg.
Merci beaucoup, Anthony.
À tout à l'heure.
Moi, je suis intrigué par votre montre. Anthony Casmarek a une montre en bois.
Ah, j'adore les montres en bois.
Alors, non, mais j'avais jamais vu ça de ma vie. Je ne sais pas, chers auditeurs, si vous connaissez ça, mais je suis intrigué par votre montre en bois.
C'est très sensible. C'est du vrai bois. C'est très sensible à l'humidité. Ça ne dure pas plus d'un an. Donc,
c'est pas possible.
C'est un budget quand même. Hein, voilà.
Mais c'est pas du tout écolo, votre histoire là.
Bah, c'est quand même naturel.
Ah.
C'est du vrai bois.
Mais oui, vous êtes obligé de la jeter au bout d'un an.
Bah, en tout cas, changer le bracelet parce que c'est très sensible à l'humidité, à la chaleur.
Même le bracelet est en bois.
Le cadran, ça, tout est en bois. Le cadran, le bracelet, voilà.
Mais on en apprend tous les jours.
Cuir et bois, je crois, exactement.
Incroyable. Incroyable, j'ai appris quelque chose. Merci beaucoup Anthony Casmarek, à tout à l'heure. Il est 20h11 sur Europe 1. Dans un instant, mon invité, c'est Topher Bronstein, président et cofondateur du Forum international pour la paix, chargé de mission par Emmanuel Macron pour le rapprochement israélo-palestinien. On va évidemment parler de la situation de guerre entre Israël et l'Iran et de cette conférence internationale qui était prévenue la semaine prochaine à New York pour relancer la solution à deux États. C'est reporté. On va en parler avec lui et c'est tout de suite sur Europe 1.
Bonjour, c'est Pascal Praud. Je suis heureux de vous retrouver sur Europe 1.
11h, 13h, Pascal Praud et vous.
Écoutez Europe 1, c'est être libre.
Oui, bonjour Pascal.
Ils nous ont déclaré la guerre. C'est insupportable d'entendre un discours pareil où on se voile la face et on ne fait rien.
C'est un plaisir de vous avoir et surtout un plaisir de vous écouter.
Europe 1, la radio libre.
Pascal Praud et vous.
À lundi, de 11h à 13h sur Europe 1, je compte sur vous.
Tout savoir sur...
Avec Fortunéo, préparer sa retraite tout en valorisant son épargne, c'est désormais possible grâce à son nouveau plan d'épargne retraite. Amandine Regissard, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes responsable des produits de placement chez Fortunéo. Un PER, c'est quoi exactement?
Alors, c'est une solution pour épargner pour la retraite et réduire ses impôts dès aujourd'hui.
Mmh.
Chaque euro versé réduit le revenu imposable jusqu'à 10%. Et l'imposition, elle, ne s'applique qu'au moment des retraits, à la retraite notamment.
C'est donc intéressant pour les indépendants.
Et pour tous ceux qui prévoient une baisse de revenus et de fiscalité à la retraite. Donc, pas mal de monde.
Et pourquoi choisir Fortunéo?
Déjà, notre PER est accessible dès 100 euros, sans frais d'entrée ni de versement.
Mmh.
Et côté rendement, pour le fonds en euros en 2024, c'est 3,20% net de frais annuels de gestion, hors prélèvements fiscaux et sociaux.
Merci Amandine.
Merci.
Plus d'informations sur le contrat sur fortuneo.fr. Fiscalité en vigueur au 1er janvier 2025, susceptible d'évolution. Ce produit comporte un risque de perte en capital. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.
Europe 1 Soir Weekend.
19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin.
Topher Bronstein, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir en direct sur Europe 1. Président et cofondateur du Forum international pour la paix, chargé de mission par Emmanuel Macron pour le rapprochement israélo-palestinien. Alors évidemment, on va en revenir dans un instant sur la proposition d'Emmanuel Macron, la reconnaissance d'un État palestinien. Mais d'abord, évidemment, on est obligé de commenter l'actualité. Topher Bronstein, Israël qui a donc déclenché cette guerre avec l'Iran. L'Iran qui était sur le point, semble-t-il, de se doter de l'arme nucléaire. Comment vous analysez la situation ce soir, sachant qu'Israël est en ce moment en train de bombarder l'Iran, et l'Iran qui a promis aussi une réplique importante ce soir. C'est, on est dans le dur de la guerre, là, Topher Bronstein. Comment vous analysez la situation?
Je vais vous donner une petite anecdote qui dit très bien ce qui se passe. C'est qu'il y avait une délégation de journalistes que j'ai fait venir à Paris pour une autre conférence sur la paix hier. il devait rentrer une partie aujourd'hui, une partie demain, et l'impasse aérienne d'Israël est fermée. Aujourd'hui, on a reçu un message du patron du transport en Israël, en leur disant que ça risque d'être pour plusieurs semaines. C'est-à-dire que l'espace aérien d'Israël risque d'être fermé pendant plusieurs semaines. Ce qui veut dire que la situation, que malheureusement, c'est pas fini bientôt et que la situation risque de s'aggraver et que les Iraniens peuvent riposter d'une façon encore plus virulente plus dur, et plus meurtrière. Écoutez, tout le monde sait depuis très longtemps que les Iraniens développent une arme nucléaire. Pour dire, honnêtement, moi, j'ai jamais compris la logique des ayatollahs. La monnaie iranienne a été dévaluée dramatiquement. Il y a un taux de chômage très important. On connaît tous les conditions des femmes et des minorités en Iran. La situation sociale et économique en Iran est catastrophique. Et ils mettent des milliards et des milliards et des milliards pour développer une arme nucléaire et pour armer leur proxy. Le Hezbollah, les Houthis au Yémen et le Hamas. Il n'y a pas vraiment de logique à ce que fait le régime iranien. Et le paradoxe le plus important, vous savez, c'est paradoxal, mais l'Iran a été le premier pays musulman à reconnaître l'État d'Israël.
Oui, c'est incroyable.
Oui,
vous avez raison de le rappeler.
Oui, il y avait une ambassade iranienne à Tel Aviv après la création de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, c'est l'État le plus belliqueux, le plus menaçant pour Israël. Moi, je comprends.
Pour Israël et peut-être aussi pour le monde occidental, parce que c'est eux qui tirent les ficelles et qui financent aussi les terroristes qui vont poser des bombes chez nous.
Oui.
On est d'accord, enfin, Bronstein.
Oui,
est-ce qu'on peut dire en substance, pardon, que ça nous arrange aussi peut-être un peu la France, qu'Israël fasse le sale travail?
Écoutez, je ne sais pas
la
si
la France
c'est...
ou le monde occidental, hein, pas que nous d'ailleurs.
Écoutez, ce qui a commencé avant-hier ne pouvait pas se faire sans l'aval des Américains. Pas seulement une aval politique en disant
mais vous ne répondez pas à ma question, est-ce que ça nous arrange, nous, le monde occidental?
Non, ce que je voulais dire, c'est que bien sûr que le monde occidental est visé par ces groupes terroristes.
Oui.
Et le monde occidental, d'une façon ou d'une autre, aujourd'hui, soutient Israël. Je n'ai pas encore entendu quelqu'un, un dirigeant du monde occidental, dire aux Israéliens, arrêtez, vous déconnez, c'est pas bien. Au contraire, tout le monde dit, Israël a le droit de se défendre pour protéger sa sécurité. C'est intéressant. Le président Macron a parlé de protéger sa sécurité, pas de se protéger contre les attaques, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'attaque, mais la sécurité d'Israël, la vie même d'Israël, était compromise par les menaces.
Mais vous voulez dire quoi quand vous dites qu'il n'y a pas eu d'attaque?
Non, il n'y a pas eu d'attaque qui ont provoqué ce qu'Israël a entrepris avant-hier.
Oui.
Toutes les attaques contre Israël, indirectement par l'Iran, c'était par leur proxy. Mais ce qui est évident, c'est qu'Israël est la première menacée. Les Iraniens menacent d'exterminer l'État d'Israël. Mais c'est évident qu'ils sont en finançant, en encourageant, en armant et en les organisations terroristes, ils sont un danger pour Paris, ils sont un danger pour le monde occidental et pas seulement le monde occidental. N'oubliez pas que ils ont beaucoup de différends avec le monde arabe. Les Iraniens sont pas des Arabes, les Iraniens sont des Perses, les Iraniens sont des chiites et tout le monde sunnite n'aime pas tellement les Iraniens. Donc je crois que le monde arabe aussi a pas mal de problèmes avec les Iraniens, et sont... La dernière fois que l'Iran a attaqué Israël, au mois d'avril et au mois d'octobre, c'est des pilotes français qui ont intercepté une partie des missiles. C'est des pilotes américains qui ont intercepté, c'est des pilotes anglais qui l'ont fait. Il y a eu quatre pays occidentaux qui étaient impliqués directement contre l'Iran, et il y en avait deux Arabes, les Jordaniens, qui étaient mêlés et qui ont intercepté, je crois qu'ils l'ont fait aussi hier, des missiles iraniens, et les Saoudiens qui avaient donné de l'information et aux Israéliens.
Peut-on dire que la France aide Israël en ce moment militairement? C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir, qui prêterait main forte à Israël si la sécurité d'Israël était menacée. Est-ce que militairement, la France agit pour empêcher peut-être certains missiles balistiques de toucher le sol israélien?
À ma connaissance, la France n'a pas fait ce qu'elle avait fait au mois d'octobre et novembre, c'est-à-dire mettre des avions en l'air pour intercepter des missiles iraniens. Je n'exclus pas que ce soit fait prochainement, mais il a dit quelque chose d'autre qui n'a pas été dit auparavant. Et si des ressortissants français seront menacés, il n'exclut pas un redéploiement de militaires, c'est-à-dire sur le terrain.
C'est ce qu'il a dit au président iranien tout à l'heure par téléphone. Il dit attention.
Fais attention à toi si tu touches à des Français. Ça ne va pas être bon pour toi. Maintenant, des ressortissants français. Vous savez combien il y en a en Israël? Or, est-ce qu'il parlait des ressortissants français à Paris? Est-ce qu'il parlait des ressortissants français qui vivent en Israël? Est-ce qu'il parlait de ressortissants français qui vivent dans un autre pays? Je ne sais pas.
Mais on de tous les ressortissants français.
J'espère.
Le président devait parler au nom de tous les ressortissants français, qu'ils soient en Israël ou ailleurs.
Je pense aussi, oui. Oui. Donc, le président iranien doit prendre en compte que, moi je pense que cette opération a été voulue par Israël en accord avec les États-Unis pour obliger les Iraniens à revenir à la table des négociations. Mm-hmm. Les Américains ont compris qu'ils les tournaient en bourrique depuis quelques semaines. Le message est clair. Soit vous revenez à la table de négociation, vous oubliez de votre programme nucléaire, et nous, on rouvre les portes de l'Occident aux Iraniens et à nos entreprises, et soit vous allez voir ce que vous allez revoir. Mmh. Israël est en train de leur donner...
Une correction.
Oui, et c'est...
Une grosse correction.
Et c'est l'apéritif. Mmh. Parce que si Israël n'arrive pas à ses fins, elle ne peut pas arriver à ses fins pour détruire les possibilités nucléaires des Iraniens, elle n'a pas les bombes nécessaires pour ça, qu'on sait très profondément dans les seuls qui les ont, c'est les Américains, c'est des bombes de 6-7 tonnes. Il n'y a que les Américains qui ont les avions pour pouvoir les transporter. Donc, si les Américains décident de détruire, ça va être un autre ballgame, ça va être un autre jeu. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, Israël a touché à des mines de gaz. Mm. Parce que la crainte de tout le monde, c'est qu'on touche au pétrole. Même des Américains, parce que ça va faire augmenter obligatoirement le prix du pétrole, personne n'en veut. Les Chinois consomment de 20 à 30% de pétrole iranien, donc les Chinois aussi disent attention, ne touchez pas à notre pétrole. Et les Israéliens ne l'ont pas fait. Mais aujourd'hui, ils ont donné un signal aux Iraniens en touchant le gaz.
Alors les Iraniens, on parle surtout du régime des Mollahs, parce qu'on a une pensée aussi pour la population iranienne qui n'en peut plus de son régime des Mollahs. Moi, quand vous dites effectivement ça, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, parce qu'on était en ligne tout à l'heure avec une Française, je crois, qui vit en Israël, et qui nous racontait son quotidien à Tel Aviv, la peur, les missiles balistiques, et la nuit encore extrêmement difficile qu'elle allait passer, elle et sa famille. C'était l'illustration de ce que vivait la population. Mais il ne faut pas oublier la population
iranienne,
qui, elle, n'est pas protégée par des abris, même par son régime, et qui risque effectivement de payer un très très lourd tribut.
Vous avez raison de le signaler. Avant-hier, le Premier ministre israélien, Netanyahu, a donné une conférence de presse en expliquant que lui voulait en fait que le régime iranien, les ayatollahs, disparaissent de la circulation, et que les Iraniens qui n'en veulent pas puissent reprendre le pouvoir. Si les Iraniens ne pourront pas reprendre le pouvoir, ne pourront pas soutenir les attaques contre l'Iran s'il va y avoir ce qui s'est passé à Gaza, c'est-à-dire des milliers et des milliers de citoyens et de civils innocents iraniens qui vont être touchés. Là, il risque d'avoir un revirement de situation où les Iraniens vont dire non.
On ne peut pas comparer Gaza à l'Iran.
Non, mais je dis qu'Israël doit faire du chirurgical, si je peux me permettre, essayer d'éviter de toucher la population civile iranienne, parce que si elle est touchée d'une façon importante, je suis certain qu'il y a malheureusement des malheureux innocents iraniens qui ont été touchés ces deux derniers jours, et je le déplore. Mais si ça va être important, ça risque de changer la donne. Et le peuple iranien risque de, encore une fois, soutenir les ayatollahs, parce qu'il sentira qu'il n'est pas protégé. Donc je pense que les Israéliens en sont totalement conscients, et qu'ils vont tout faire pour éviter des frappes qui touchent
sur la population. Ofer Bronstein, un mot évidemment sur Gaza. Emmanuel Macron a évoqué hier soir, alors dans son discours, il a dit d'un côté que la France soutenait Israël dans son droit à se défendre. Et d'un autre côté, il a évoqué à nouveau la reconnaissance d'un État palestinien. D'abord, la situation entre Israël et l'Iran ne remet-elle pas un peu les choses à plat? Ou est-ce que ça entrave pas ce processus?
Au contraire. Je pense qu'au contraire. Étant donné que l'Iran, c'est les pyromanes de la région, qu'ils utilisent la cause palestinienne pour expliquer leur volonté de détruire l'État d'Israël. Parce qu'Israël n'a jamais menacé l'Iran. Mais étant donné qu'ils se rendent que le sionisme, etc., etc., ils le font au nom de la cause palestinienne. Comme certains pyromanes ici en France, au nom de la cause palestinienne, ils appellent à la violence. Et ça, c'est absolument inadmissible. Si on arrive à faire revenir les Iraniens à la table des négociations, ou à ce qui est un changement de régime en Iran, ça va apaiser la région. Ça va permettre à l'Iran de revenir dans la famille des nations. Et pourquoi pas, plus tard, de reconnaître, moi j'espère qu'un jour, j'y crois profondément, qu'un jour, vous savez, Le peuple iranien, c'est celui qui ressemble le plus aux Israéliens. Et moi, j'espère un jour que c'est une civilisation exceptionnelle, l'Iran.
Bien sûr.
Et le peuple iranien est magnifique. Et sa langue est sublime. Je ne parle même pas de la gastronomie ou de la musique iranienne qui sont les prédécesseurs. Les Iraniens ont inventé les mathématiques. Et donc j'espère que le peuple iranien, un jour, sera en paix avec le peuple israélien et avec tous les peuples de la région. Donc ça renforce, encore une fois, notre volonté de permettre aux Palestiniens d'avoir une souveraineté, d'avoir de l'indépendance, de retrouver leur liberté. C'est ce qui garantira, en fin de compte, la sécurité d'Israël.
Mais c'est vrai, mais alors, Ofer Bronstein, le problème, c'est la liste évoquée par Emmanuel Macron pour que les conditions soient réunies afin que l'État, un État palestinien soit reconnu. Mais sauf que cette liste, on n'y est pas du tout. Il faut que le Hamas soit tombé, il faut pouvoir parler à des dirigeants politiques qui prennent le pouvoir.
Alors apparemment, vous n'avez pas lu la lettre que le président Mahmoud Abbas, le patron de l'autorité palestinienne.
Mais est-il vraiment soutenu par les Palestiniens? Peut-il vraiment reprendre la main, Mahmoud Abbas?
Écoutez, Mahmoud Abbas a 89 ans. Il ne cherche pas à rester au pouvoir. D'ailleurs, il le dit dans sa lettre. Dans un an, il y aura un changement de pouvoir, il y aura des élections, c'est une partie des conditions de la communauté internationale, qui est une réforme institutionnelle auprès des Palestiniens. Et il le dit dans sa lettre, je m'engage à que... Mais je pense que Mahmoud Abbas, le respect que j'ai pour lui, c'est qu'il n'a jamais soutenu le terrorisme. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais été touché par Israël. Mahmoud Abbas condamne le Hamas d'une façon virulente dans sa lettre sur le 7 octobre. Le Mahmoud Abbas appelle à la libération des otages, et il ne faut pas l'oublier, il y a des otages à Gaza que le conflit avec l'Iran ne devra pas nous faire oublier.
Mahmoud Abbas... Il y a une soixantaine d'otages encore, hein, israéliens.
Il y a plus que 50 otages. Oui. Apparemment, il y en a une vingtaine qui sont encore en vie. J'espère qu'il y en a plus. Malheureusement, il y en a trop qui sont morts. Mahmoud Abbas dit qu'il faut libérer les otages. Il dit au Hamas, jetez vos armes, ça ne marchera pas. Et il dit que le prochain gouvernement palestinien sera sans le Hamas. Plus, il s'engage à ce que le futur État palestinien soit démilitarisé. Donc, il donne des grands. Il y a des choses qu'il n'a pas dit. Il y a des choses qu'on voudra voir. Mais ce qui est intéressant avec la reconnaissance d'un État palestinien, c'est qu'on décide de changer le paradigme. Le paradigme a toujours été depuis Oslo, depuis Madrid, en 92, on va négocier, Israël et les Palestiniens vont négocier, et au bout de ces négociations, il y aura la création d'un État palestinien. Même le Premier ministre Netanyahou l'a reconnu. Jusqu'au 7 octobre, il disait, moi je suis pour la solution des deux États, pas seulement la gauche israélienne. Et toute la communauté internationale, même Donald Trump le premier, l'avait dit. Kouchner, son beau-fils, a fait tout ce qu'il pouvait dans le cadre des accords d'Abraham pour qu'il y ait une reconnaissance d'un État palestinien. Le paradigme a changé maintenant, c'est qu'on dit, vous savez quoi? Tout d'abord, on reconnaît un État palestinien, il n'aura pas de frontières, il n'aura pas de capitale, les problèmes virulents qui sont les réfugiés et la sécurité des frontières seront discutés après entre Israéliens et Palestiniens. Mais ce qu'il permet aux Palestiniens de faire, c'est de regarder les Israéliens d'égal à égal, d'avoir leur dignité retrouvée. Vous savez, on pense que le problème entre Israéliens et Palestiniens est territorial. Moi qui fréquente depuis 45 ans les Palestiniens, il n'est pas seulement territorial. Il y a une frustration terrible. Il y a une humiliation très importante. Si on rend un peu de dignité aux Palestiniens, si on les respecte, si on leur donne vraiment le sentiment réel qu'ils sont égal à égal aux Israéliens, je pense qu'on aura fait de grands pas vers la paix.
Juste un mot, pourquoi se sent-il inférieur, Ofer Bronstein?
Parce qu'on fait tout pour qu'ils se sentent inférieurs.
Mais qui ont?
Mais je vais vous dire, oui. Donc, moi, je pense que le plus grand drame d'Israël a été et la victoire de 67. C'est paradoxal. La plus grande victoire de l'État d'Israël, en 6 jours, ils éliminent et toutes les armées arabes, pas seulement une, mais toutes, en 6 jours. Et ils prennent possession des territoires. Je vais vous dire une anecdote. À l'époque, celui qui était Premier ministre en Israël était Lévi Eshkol, qui à mon avis est un des meilleurs premiers ministres d'Israël, on l'oublie. Et les militaires et le ministre de la Défense de l'époque, c'était Dayan pour Israël et Yitzhak Rabin qui était le chef d'état-major, viennent le voir et lui disent « Voilà, on a récupéré le mur de la montagne, on a maintenant les territoires. » Et sa première réaction était tellement sage. Il a dit « Pourquoi faire ?» Non, il a dit « Qu'est-ce qu'on va faire avec ?» Je pense que ça, c'est le plus grand drame de l'État d'Israël. L'État d'Israël et les valeurs du peuple juif, on n'est pas là pour dominer notre peuple. On n'est pas là pour perdre nos valeurs. Et quand je vois certains dirigeants aujourd'hui dans le gouvernement israélien, je n'ai rien en commun avec eux en tant que juif et en tant qu'israélien. Ce sont des ennemis du peuple juif, ce sont des ennemis des Israéliens, et c'est eux qui mettent de l'huile sur le feu et permettre à beaucoup d'antisémites de lever la tête comme on le voit aujourd'hui. Et c'est très préoccupant d'ailleurs, cette montée d'antisémitisme inacceptable. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui des forces militaires doivent être trois fois plus importantes aujourd'hui devant une synagogue, un centre communautaire juif. C'est quoi ça? Pourquoi on doit protéger nos ressortissants de cette façon-là? Moi, le taxi qui m'a amené ici tout à l'heure m'a dit qu'il y a quelques jours, c'est un musulman, il m'a dit il y a quelques jours, il a accompagné une femme juive à sa maison, et la femme juive lui a dit, je vous demande monsieur, restez pas loin de la voiture, ne partez pas tant que je ne suis pas rentré chez moi. Cette pauvre femme juive avait peur de rentrer dans son immeuble.
C'est inadmissible ce qui se passe en France aujourd'hui.
Inadmissible.
Et motivé par une certaine gauche qui agit des drapeaux palestiniens et des mairies. Vous avez vu la mairie de Saint-Denis, je crois, qui agit des drapeaux palestiniens.
Mais moi, j'appelle la mairie de Saint-Denis de garder son drapeau palestinien, mais de mettre à côté un drapeau israélien, ça serait une bonne chose.
Ouais.
Moi, j'appelle tous ceux qui condamnent aujourd'hui l'État d'Israël et qui, d'une façon fourbe, soutiennent le Hamas, de faire des efforts pour soutenir aussi la paix. Parce qu'ils ne soutiennent pas la paix, ils soutiennent la guerre. Ouais. Le petit navire de plaisance.
Oui, oui.
Par deux, ouais. Par une, excusez-moi l'expression, ouais. une fille de pub, parce que ce qu'elle voulait, c'est de la provocation et une attention médiatique. Mmh. Elle ne sert pas le peuple. Les Palestiniens me disent, elle ne sert pas. Ouais. Elle ne sert pas notre cause. Mmh. Elle incite à la violence. Mmh. Elle met de l'huile sur le feu. C'est une pyromane. Donc, vous savez, je l'ai appelé plusieurs fois à avoir un dialogue pour la paix, pas pour. Elle refuse de venir dialoguer avec moi parce que.
C'est honteux.
C'est honteux.
On refuse pas de venir discuter avec vous, Ofer Bronstein. Je suis désolé, président et cofondateur du Forum international pour la paix, chargé de mission par Emmanuel Macron pour le rapprochement israélo-palestinien. Irim Hassan ne veut pas venir discuter avec vous. Ça, vous voyez, elle a peur.
Elle a peur.
Mais bien sûr, elle a peur. Enfin, ça, c'est. Non, Charlotte Dornelas.
Elle a peur.
Mais non, mais c'est quand même
parce
dingue.
Parce qu'elle ne veut pas parler de paix. Oui. Elle veut inciter à la guerre et à la violence. S'il y a des femmes.
Elle est soutenue par qui, cette femme?
Au niveau financier?
Oui.
Ben, moi, je ne sais pas, je vous dis ce qu'on a. On a dit. On a dit que c'était le régime d'Assad qui l'a soutenu. C'est vrai que je crois que c'est son père qui est d'origine syrienne. C'est vrai que quand Assad était au pouvoir, elle rentrait et sortie de la Syrie, ce qui n'était pas facile pour tout le monde. Donc, je ne sais pas si elle avait des relations avec le régime d'Assad ou pas. Ce que je sais, c'est qu'elle, aujourd'hui, met de l'huile sur le feu. C'est une pyromane. Elle ne part condamner Israël, elle ne fait rien pour la paix. Parce que les Palestiniens veulent la paix. Ils ne veulent pas que les Israéliens soient condamnés. On ne fait pas un concours de qui est la victime la plus importante. Il faut qu'on fasse un concours de celui qui veut la paix le plus. Elle fait un concours de celui qui va être le plus violent. Et malheureusement, je pense que pas mal de Juifs en France se sont menacés à cause de femmes comme elle.
De Rémi Hassan, de Jean-Luc Mélenchon, de LFI.
Moi, je ne prononce même pas leur nom.
Vous ne prononcez pas leur nom. Non, mais c'est vrai que la montée de l'antisémitisme, je voudrais, Charlotte Dornelas, peut-être un mot, c'est passionnant ce que raconte Ofer Bronstein. Passionnant, effectivement, au niveau international, au niveau aussi national, cette montée de l'antisémitisme, parce qu'aujourd'hui, ces répercussions, cette guerre, elle aura des répercussions, de toute manière, pas qu'en France, en Europe, aux États-Unis, ailleurs. Oui. Mais évidemment.
Les personnes se font tuer.
Oui, Charles Dornelas.
Non, mais c'est intéressant à deux titres, parce que la première chose, c'est que je réagis par rapport à la France insoumise ou affiliée, qui génère par une importation extrêmement binaire une détestation de personnes qui n'ont rien à voir avec un conflit qui se passe à des milliers de kilomètres, on le dit depuis un an et demi, plus même. Et ça, c'est une certitude. Et il y a une autre tentation, et c'est pour ça que je trouve votre intervention intéressante, c'est de répondre à la binarité de LFI par une autre binarité, c'est-à-dire se dire LFI est tellement binaire qu'on va prendre la position adverse. Et vous avez réussi à apporter de la complexité dans un dossier qui est éminemment complexe et qui, je pense, en a perdu beaucoup dans le commentaire ces deux dernières années. Donc pour ça, c'était intéressant pour les deux.
Mais Charles, permettez-moi, c'est pas moi qui prend la position adverse.
Non, justement,
c'est eux qui prennent la position adverse qui est la mienne.
Charlotte Dornelas,
qui a toujours
été,
mais oui, je comprends.
Que c'était modéré, que
absolument,
votre parole avait du poids.
Moi, je milite depuis 45 ans. Je suis le seul Israélien qui a aujourd'hui un passeport israélien, un passeport français et un passeport palestinien. J'ai toujours milité pour la cause palestinienne, mais qui n'est pas contre Israël. Moi, je suis un sioniste affirmé. Mais je pense que c'est dans l'intérêt d'Israël de voir un État de Palestine. Ces gens-là nuisent aux Palestiniens. Mmh. Hier, on a réuni 300 Israéliens et 300 Palestiniens à Paris. Ils sont venus pour se parler, pour se connaître, pour envisager le futur. Mmh. Oui, c'était pour...
Justement, c'est exactement ce que j'étais en train de dire, c'est que la tentation de LFI, c'est d'expliquer que tout est... Il y a des gentils et des méchants, et la tentation, parfois, en face de LFI, c'est de comprendre qu'il y a des gentils et des méchants et qu'ils sont inversés. Or, on comprend, et le Moyen-Orient, on le sait depuis très longtemps, que c'est malheureusement beaucoup plus compliqué que ça. Et par exemple, votre mise en garde sur ce que pourrait devenir ce conflit iranien, avec des Iraniens qui, certes, sont opposés pour une partie d'entre eux au régime des Mollahs, mais qui sont aussi très nationalistes au sens absolument légitime du terme, et qui pourraient en effet refuser catégoriquement que la révolution, entre guillemets, soit entre les mains d'un quelconque État étranger, surtout s'il est américain, parce que la région a déjà connu ça trop régulièrement. On a vu, avec les meilleures intentions du monde, une région se faire massacrer, des peuples perdre absolument tout. Mmh. Et on vient pleurer 10 ans après en disant « c'est pas ce qu'il fallait faire ». Donc alerte maximum, en effet, au moment de dire « on va détruire une menace ». La menace, on s'entend tous sur sa réalité, notamment la menace existentielle pour Israël, la menace tout court. Maintenant, c'est vrai que la volonté de carpet bombing, on a vu depuis très longtemps que c'était pas une solution, que ça n'apportait jamais les fruits que l'on recherchait. Donc, comment est-ce que cette menace va être éradiquée dans les semaines, jours, mois qui arrivent? Là, c'est une évolution qu'il va falloir suivre avec, et c'est pour ça que je rendais hommage à votre prise de parole, avec la nuance et la complexité que ça mérite.
Je peux rebondir sur quelque chose qu'a dit Charlotte. Je veux rappeler justement que les Américains dans les années 50 ont joué un rôle pervers en Iran. À l'époque où les Iraniens avaient des relations diplomatiques avec Israël, les Américains ont fait en sorte qu'un Iranien communiste et démocratiquement élu soit éliminé par la CIA pour justement mettre le Shah d'Iran. Mmh. Et c'est ça qui a rendu les Iraniens... Ils avaient les boules, si je peux me permettre. Et les Français qui ont reçu Khomeini pendant des années ici à Paris. Mais donc il ne faut pas... vous avez raison, il y a des nationalistes iraniens, ils ne sont pas des ennemis, il ne faut pas s'insérer dans la politique intérieure iranienne, c'est le peuple iranien qui doit choisir, mais il ne faut en aucun cas toucher au peuple iranien, même celui qui est nationaliste, en aucun cas.
Adrien Matou.
Je voulais rebondir sur ces remarques, parce que je trouve qu'il y a quand même, évidemment, la menace existentielle que fait peser l'Iran sur Israël, elle est établie, mais on a quand même un risque majeur avec cette décision de Benjamin Netanyahu de faire des attaques, de prendre l'initiative d'attaque. D'abord, c'est quand même le risque d'escalade. On n'en parle pas, mais...
Ça, je crois que malheureusement, on y est déjà.
Potentiellement, l'Iran est potentiellement une puissance nucléaire, donc ça, c'est quand même un point. Mmh. Ensuite, ça consacre quand même la loi du plus fort. C'est-à-dire que c'est quand même l'idée qu'il n'y a plus de droit international. C'est si je peux frapper un ennemi, je le fais. Donc si quand même, c'est ce qu'on a vu en Russie avec Vladimir Poutine, si cette logique se généralise, c'est quand même un risque de déclenchement de conflit. Et surtout, dernier point, il y a quand même un retour, je trouve, d'une logique un peu néoconservatrice. Donc, Charlotte en parlait tout à l'heure.
De la gérance.
C'est l'idée parce qu'on voit que dans l'air, il y a quand même cette idée que peut-être qu'il y aura un changement de régime, mais sauf que la démocratie n'arrive jamais avec des missiles. Et quel serait le crédit, vous en parliez, M. Brunstein, quel serait le crédit d'un régime fantoche installé par les missiles israéliens et l'appui des Américains pour le peuple iranien? Il serait nul en réalité. Et au contraire, le régime des Mollahs pourrait se servir de ce qui se passe pour dire, regardez, on est là, il faut se souder derrière nous. Il y a quand même un danger dans cette
Il ne faut pas toucher à la volonté du peuple iranien. Si demain ils veulent revoter pour les Mollahs, c'est leur droit. Nous, on doit éviter qu'ils aient une bombe atomique et qu'ils appauvrissent leur peuple. Je ne comprends pas l'intérêt. Je vais vous dire par rapport à la cause palestinienne quelque chose qui me révolte. Les pays du Moyen-Orient ont dépensé l'année dernière 200 milliards de dollars en armement. 200 milliards. Pour reconstruire Gaza et pour donner un élan à la croissance d'un État palestinien, ça coûtera à peu près 75 milliards. Un tiers de ce que les pays du Moyen-Orient achètent en armes. Quelle logique ! Cette guerre à Gaza, elle coûte plus que 250 millions de shekels, presque 60 millions d'euros, aux contribuables israéliens par jour. Par jour ! Elle appauvrit aussi les Israéliens. Je ne parle même pas des Palestiniens. Le PIB en Israël est de 50 000 dollars par an. Le PIB en Cisjordanie est de 3 300 $. Le PIB avant le 7 octobre à Gaza était de 1 000 $. C'est aussi la pauvreté et l'ignorance qui sont nos ennemis. C'est là-bas que le Hamas et les extrémistes ils vont s'abreuver. Ils se nourrissent de la pauvreté, ils se nourrissent de l'ignorance. Donc ça aussi, il va falloir qu'on combatte.
Il faut éradiquer le Hamas, disons les choses. On rappelle que le Hamas est un groupe terroriste.
Oui.
C'est lui qui tire les ficelles. Oui.
Maintenant, quand même.
Bah oui, mais moi maintenant, mais quand même.
Non, mais il y a aussi cette question-là. Il y a une question de politique intérieure en Israël qui se joue évidemment, notamment par rapport à ce qui se passe à Gaza, qui est de plus en plus critiquée à l'intérieur d'Israël. Et Benjamin Netanyahou avait aussi besoin d'une porte de sortie par rapport à cette critique grandissante, on va dire. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais donc cette question iranienne, elle existe depuis bien avant le 7 octobre, évidemment. Elle se faisait de plus pressante ces derniers jours, notamment avec l'agence du nucléaire qui prévenait en effet de l'imminence de la possession de la bombe atomique. Mais pour le dire en d'autres termes, je veux dire, le retour en effet du néoconservatisme, c'est la pire nouvelle qui puisse arriver pour le monde entier.
Bien sûr.
Et encore une fois, il faut bien comprendre, quand je dis que c'est plus complexe que les gentils et les méchants, c'est que toutes les interventions qui sont faites avec ces bonnes intentions-là ont été dramatiques. J'ai assez peu de sympathie pour l'URSS. Enfin, avoir fabriqué les talibans, c'était pas une bonne idée. J'ai assez peu de sympathie pour Saddam Hussein, mais fabriquer l'État islamique, c'était moyennement le but recherché, j'espère. La même chose avec Bachar al-Assad et l'inquiétude qui arrive aujourd'hui avec ce qui est en train potentiellement d'advenir en Syrie. Donc, il faut faire extrêmement attention à ce que génèrent des interventions occidentales ou assimilées dans la tête de peuples qui, eux, ont des intentions bien meilleures, en effet, que leurs régimes qui sont ainsi visés. Donc c'est pour ça qu'il y a une inquiétude qui est, en effet, et internationale à raison, au-delà de la question, évidemment, la question nucléaire, la question du transport du pétrole, hein, on a vu avec le détroit qui appartient à l'Iran et qui pourrait bloquer, je crois que c'est 20%, sais plus quel est, c'est ça, à peu près 20% de tout le pétrole qui arrive dans le monde. Donc là, c'est pareil.
Détroit d'Hormuz, beaucoup plus que 20%.
Beaucoup plus que 20%, voilà. Donc il y a beaucoup d'implications qui peuvent arriver, en effet, dans nos vies, d'autant que personne ne sait aujourd'hui là quelle va être exactement la réaction de l'Iran. Certes, ils ont dit qu'ils iraient pas aux prochaines négociations avec les États-Unis. Bon, ça, on verra comment ça arrive dans les jours d'après. Non, mais là, il y a beaucoup de fierté. Non, mais il y a beaucoup de fierté aujourd'hui. Donc, en effet, je sais pas comment ils réagiront là-dessus dans les jours qui arrivent. En revanche, en effet, ils ont déjà annoncé qu'ils tenaient les États-Unis pour comptables des frappes israéliennes. Qu'est-ce qu'il adviendra du reste de l'Occident? Et est-ce que le ressort du terrorisme sera aussi une manière de répondre à l'Occident? Il y a beaucoup de questions qui se posent au-delà de la question
bien
de savoir
sûr.
Si nous sommes inquiets du nucléaire iranien, ce que, en effet, menace établie.
C'est pas un hasard qu'Israël ait décidé d'attaquer maintenant.
Alors justement, l'ambassadeur n'a pas su me répondre.
Bah, 61e jour.
Oui, l'ambassadeur d'Israël en
France. Le lendemain des 60 jours, non?
Non, mais pourquoi aujourd'hui précisément?
Non,
ça,
je ne sais pas si c'est aujourd'hui précisément. Mais je veux dire, ce moment-là, Netanyahou a dit que c'était prêt pour le mois d'avril, mais qu'il a dû repousser, j'ai pas compris pourquoi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça a été fait aujourd'hui, et c'est pour ça que je dis que c'est avec la connaissance des Américains, parce que les Américains se sont rendus compte que les négociations ne menaient à rien, que les Iraniens les menaient en bourrique, et ils ont demandé aux Israéliens de faire pression sur, à mon avis, sur les Iraniens, pour qu'ils reviennent à la table des
Alors quel est l'intérêt d'Emmanuel Macron, puisqu'on sait que les négociations ne servent à rien avec les Iraniens, de rappeler le président iranien, de lui dire de revenir à la table des négociations.
Elle menait à rien.
Mais pourquoi ça mène à rien?
Ben là, puisque...
Pour l'instant, ça a mené à rien.
C'est ce que vous disiez, voilà, c'est pour l'instant, ça mène à rien.
Écoutez, Donald Trump, le premier, s'est retiré des accords qui ont été signés en 2015, et à mon avis, il a fait une erreur. Parce qu'en attendant, les Iraniens, justement, ont enrichi de plus en plus leur uranium. Il y a eu un deal qui a été fait avec les Iraniens. La seule chose qui n'était pas complète dans le deal qui a été signé en 2015... c'est les missiles balistiques qui n'en faisaient pas partie. Et c'est vrai qu'ils devraient en faire partie. Mais on peut le faire en négociant. Il faut arriver à des accords politiques. On ne détruira pas l'Iran s'il n'y a pas les Américains. Il sera impossible de détruire les centrifugeuses qui enrichissent l'uranium. Et je ne sais pas si les Américains veulent intervenir directement dans cette guerre. Ce qu'il faut, c'est les pousser à revenir à la table de négociation et à ajouter les missiles balistiques dans ces accords-là. Moi, je pense que c'est tout à fait faisable.
C'est faisable. Merci infiniment, Ofer Weinstein. On s'arrêtera sur du « c'est faisable ».
On espère, de tout notre cœur.
Voilà, on espère, bien sûr. Merci infiniment, président et cofondateur du Forum international pour la paix, chargé de mission par Emmanuel Macron pour le rapprochement israélo-palestinien. Merci infiniment
merci
d'avoir été avec nous ce soir.
Merci à vous,
sur
bon week-end.
Europe 1. Merci beaucoup. Il est 20h44.
Europe 1 soir week-end, 19h-21h
sur Europe 1.
Demain, vers 6h40, retrouvez sur Europe 1 l'entretien Une date, une histoire avec le spray répulsif antipique pur essentiel. La protection 100% naturelle, efficace 7 heures contre tous les moustiques et insectes piqueurs, en pharmacie.
L'héritage Goldman revient. L'aventure continue pour un nouveau voyage musical. Un show explosif pour redécouvrir les tubes cultes de Jean-Jacques Goldman et ceux qu'il a écrits pour les grandes voix de la chanson française. L'Héritage Goldman 2, une tournée événement à ne pas manquer à partir du 17 septembre avec Europe 1.
Europe 1, le journal permanent.
20h45 sur Europe 1, le journal permanent, Maëlle Laurent.
L'Iran ne négociera pas son programme nucléaire avec les États-Unis si Israël poursuit ses attaques. Réponse ce soir du président iranien Emmanuel Macron à la veille de pourparlers initialement programmés demain à Oman. Plus tôt dans la journée, le chef de l'État avait formellement demandé aux Iraniens de revenir rapidement à la table des négociations. De son côté, l'armée israélienne prévoit de frapper, je cite, tous les sites et les cibles du régime des ayatollahs. Déclaration du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Israël, qui a poursuivi aujourd'hui ses attaques contre des sites militaires et nucléaires iranien, une installation souterraine de lancement de missiles située dans l'ouest du pays notamment. L'État hébreu estime, près de deux jours après le début de son offensive en Iran, avoir déjà réussi à porter un véritable coup au programme nucléaire dans ce pays. Aux États-Unis, un élu local de l'État du Minnesota et son mari ont été tués aujourd'hui. Un autre élu a été blessé. Le suspect était en fuite et activement recherché. Le président Donald Trump a rapidement dénoncé une terrible attaque. Le gouverneur de l'État parle, lui, d'un acte de violence politique. Retour en France, dans le Nord, une personne a été tuée ce matin dans un camp de migrants situé près de Dunkerque. Cinq autres personnes ont été blessées par balle, dont un enfant. Le parquet a ouvert une enquête pour meurtre en bande organisée. Dans les Yvelines à présent, un homme est décédé hier à Grandchamp suite à l'effondrement d'un arbre. Une femme a, elle, été grièvement blessée à Paris. La cause, dans les deux cas, ce sont les violents orages qui se sont abattus la nuit dernière sur une grande partie de la France. À noter que 18 départements situés dans le centre et dans le quart nord-est du pays sont placés en vigilance orange par Météo France, toujours pour cause d'orage. Et puis du rugby pour terminé, suite et fin des barrages de la phase finale du top 14. Au lendemain de Bayonne-Clermont, Toulon et Castres ont rendez-vous dans quelques minutes à 21h. Le vainqueur de ce second barrage affrontera le champion d'Europe en titre, Bordeaux-Bègles, pour la demi-finale.
Merci beaucoup Maëlle, à tout à l'heure pour le journal sur Europe 1, il est 20h47.
Europe 1 soir week-end.
19h-21h, Pascal Delatour-Dupin.
Et ce conflit qui s'importe en France. L'équipe, alors, est-ce que vous avez vu que la mairie de Saint-Denis ici, la mairie de Saint-Denis, la mairie, on est en démocratie, on est en France jusque-là, de Saint-Denis, a hissé le drapeau palestinien sur sa façade et a appelé à manifester cet après-midi autour de Rima Hassan, qui était retour de son petit périple. Comme disait Ofer Weinstein tout à l'heure, c'est son périple, sa com, quoi.
Ça marche bien, on bordèle 5 heures par jour.
Bah oui, mais en même temps, elle rentre à Paris, la place de la République, c'est noir de monde. Et vous vous rendez compte, la mairie de Saint-Denis, moi je voudrais vous entendre, Adrien Matou, que je suis ravie de revoir dans ce studio, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. J'avais oublié de préciser, mais on vous connaît par cœur. Adrien Matou.
Vous l'avez dit tellement vite que même moi, j'ai pas compris.
Vous savez pas ce qu'il fait, directeur adjoint?
Si, je sais, mais.
Monsieur le directeur.
Voilà. Monsieur le directeur.
Je vous appelais monsieur le directeur de la rédaction de Marianne. Vous n'avez pas changé.
Vous êtes
toujours directeur.
A priori, non.
Voilà, vous êtes de retour sur Europe 1. Vous comprenez que la mairie de Saint-Denis...
Je comprends. On peut comprendre sans approuver. C'est une grande tradition des mairies de gauche de prendre position sur les sujets internationaux. Il y a même des petites municipalités de 10 000 habitants qui passent plus de temps à débattre de ce qui se passe à l'autre bout du monde que du rond-point à trois rues. Le fait d'appeler à manifester, je comprends qu'on soit choqués. Ceci dit, c'est une municipalité...
Je crois que c'est le drapeau palestinien sur la mairie qui me choque le plus, je vous le dis franchement.
Alors ça, pour le coup... Je vous trouve choqué. Ceci dit, il y a beaucoup de mairies qui ont un drapeau ukrainien, par exemple.
Le drapeau ukrainien n'envoie pas le même message que le drapeau palestinien aujourd'hui.
Non, évidemment. Alors on peut discuter du message.
Non, mais un drapeau ukrainien sur la façade d'une mairie française, c'est un peu absurde aussi. C'est-à-dire qu'on joue un jeu un peu.
On comprend pas trop. Oui.
On n'a qu'à mettre le drapeau français.
Moi, si c'est un drapeau en soutien aux victimes, aux dizaines de milliers de victimes de Gaza, je suis pas extrêmement choqué. Après, si c'est un mot d'ordre pour manifester.
Adrien Matou, vous savez très bien que c'est pas ça. Enfin. Peut-être par extension, mais c'est pas ça. Le drapeau palestinien, malheureusement, aujourd'hui en France, il ne représente pas du tout.
J'admire votre capacité à sonder les cœurs et les reins, parce que je pense vraiment qu'il y a des gens qui ont le drapeau palestinien qui ne souhaitent pas l'anéantissement d'Israël. On sait évidemment que dans le. Comment dire, dans la défense de la cause palestinienne et dans l'antisionisme de certains, voire de beaucoup, se cache l'antisémitisme. Ceci dit, je vais pas prétendre que tout le monde, tous ceux qui soutiennent la cause palestinienne aujourd'hui, sont des antisémites en puissance. Je ne peux pas dire ça.
L'invitation de Rima Hassan en dit plus que le drapeau lui-même.
L'invitation de Rima Hassan, oui, exactement. Charles Dornelas, vous en pensez quoi, vous?
Mais non, mais c'est pour ça que je disais, au lieu de multiplier les drapeaux, parce que si on met des drapeaux en soutien à toutes les victimes du monde, il va falloir un nombre de drapeaux incalculable. Il y en a beaucoup qu'on oublie.
Par exemple, en ce moment, deux secondes, il y a un immense massacre en cours au Soudan. Aucune mairie ne met le drapeau du Soudan.
Donc, en effet, c'est pour ça que je disais, c'est pas la légitimité de la cause ou de la souffrance qui est indiscutable dans tous les pays qu'on a évoqués jusqu'à maintenant, qui fait qu'on affiche tel ou tel drapeau. Et le problème, c'est que souvent, ça devient un ressort politique, en effet, et voire un ressort électoral pour certains, ce qui confine au cynisme qui se retourne parfois contre la préoccupation même de la souffrance. Ce que je disais tout à l'heure, pourrir le débat, c'est le meilleur moyen de faire oublier les souffrances réelles de part et d'autre de la guerre, puisque je rappelle que dans une guerre, tout le monde souffre. En fait, c'est la raison pour laquelle il faut tout faire pour qu'elle s'arrête. Ça, c'est une certitude. Maintenant que le conflit, que ce conflit-là en particulier, soit instrumentalisé de manière abject par certains pour des raisons électorales et notamment dans certains quartiers où en plus il est alimenté et il arrive dans certains cerveaux comme une détestation de potentiellement, en effet, la personne juive qui habite à trois pâtés de maison. C'est une évidence, on le voit depuis un an et demi. C'est pour ça que c'est dangereux, et c'est dangereux à tous les titres. C'est dangereux, en effet, directement en France par une importation complètement idiote et vraiment bas de plafond de ce conflit qui a des répercussions sur des Français. Et ça, c'est une catastrophe. Ça a des répercussions aussi dans la détestation nourrie par certains envers la France par un discours qui fait que, vous savez, ce fameux discours de la France est complice du génocide, qui par ailleurs discours, et je note là une certaine malhonnêteté qui ne s'est pas amendée avec le changement de discours d'Emmanuel Macron lui-même à l'égard d'Israël. Le discours ne s'est pas du tout amendé. On entend encore dans les manifestations que le président est complice du génocide à Gaza. Donc c'est bien la preuve que c'est pas tellement la réalité de la situation qui intéresse. Ça, c'est la deuxième chose. Et évidemment, ça n'apporte rien dans la résolution du conflit où, encore une fois, les drames sont bien présents et ça invisibilise même pour une partie, on va dire, le drame, en l'occurrence, des Palestiniens, que certains refusent de voir par exaspération du discours de LFI ou de Rima Hassan en particulier. Donc, je trouve ça, si, peut-être que j'allais dire c'est inefficace à tout point de vue. Non, peut-être pas électoralement, et on le verra aux prochaines élections. Mais même là, ça reste à prouver, puisque le but étant de mobiliser un électorat qui jusqu'à maintenant ne votait pas. Bon, on verra si c'était réussi, et là on aura une raison de plus de s'inquiéter.
On rappelle le contexte politique à Saint-Denis, parce que c'est pas inintéressant.
Oui. Ah bah si, vous avez raison, Pierre.
C'est pas une mairie LFI, c'est pas une mairie communiste, c'est une mairie socialiste. Alors que Saint-Denis a été une des villes de la banlieue rouge, donc une ville qui a été sous domination communiste pendant des décennies. Les dernières municipales ont été extrêmement houleuses et il y a eu cette victoire un peu surprise des socialistes. Alors les socialistes à Saint-Denis, c'est vous pouvez pas faire plus à droite, hein.
Dans ce qui existe,
socialistes à Saint-Denis.
Aucune liste plus à droite. Aucune liste plus à droite que le PS.
Mais qu'est-ce qu'ils vont mettre des drapeaux palestiniens sur la façade de la mairie?
Je pense qu'ils savent. On va pas se mentir. Saint-Denis est une ville où la population musulmane est extrêmement nombreuse. Il s'agit de ne pas se faire couper l'herbe sous le pied et de montrer qu'on a une préoccupation pour la cause palestinienne qui existe et que les LFI ne sont pas les seuls à l'incarner.
Donc c'est pour ça que l'invitation de Rima Hassan est plus étonnante que le drapeau palestinien.
L'invitation de Rima Hassan, genre. Racontez-nous, Charlotte Dornelas.
En raison de ce que vient de dire Adrien, c'est beaucoup plus étonnant, en effet, parce que le drapeau palestinien, par ailleurs, chez beaucoup de gens, à mon avis, c'est important que cette cause et que la préoccupation, on va dire, pour les Palestiniens existe ailleurs précisément que dans le discours du LFI. C'est important. Pourquoi ? Parce que c'est une préoccupation. D'ailleurs, on l'a déjà évoqué à de nombreuses reprises sur ce plateau. Il y a beaucoup de gens, et notamment dans la population musulmane, pour qui cette question est viscérale. Ouais. Nous, enfin... on n'est pas directement impliqué dans ce conflit-là de la même manière. Mais il est vrai que dans la population musulmane, de la même manière d'ailleurs que chez nos compatriotes de confession juive, il y a quelque chose de viscéral et d'existentiel dans le conflit qui est en train de se jouer. C'est pas le cas chez tout le monde, mais donc dans la population musulmane, c'est une certitude pour la plupart, on va dire pour une majorité. Donc il est important que cette souffrance ne soit pas remise uniquement entre les mains de LFI. C'est pour ça que je dis que le drapeau palestinien, je le mettrai pas sur la mairie, mais le fait qu'il soit affiché ou défendu me surprend
le problème,
beaucoup
c'est qu'il
moins.
Est utilisé, pardon, instrumentalisé ce drapeau
justement,
palestinien.
C'est pour c'est ça, c'est pour ça que ça me surprend moins en soi le drapeau lui-même que l'invitation de Rima Hassan qui elle est beaucoup plus difficile à décrypter dans
défend
la situation
cette cause
politique
de manière complètement lunaire. Ouais. Quand on parle des gens qui importent le conflit de manière outrancière et qui le placent sur des bases totalement néfastes, Rima Hassan arrive en premier.
Ouais.
Alors, ce qui est intéressant dans le fait qu'elle est invitée par le PS, c'est que je me demande en réalité à quel point Rima Hassan est identifiée comme une figure insoumise oui, ou si elle arrive à exister par elle-même sur son nom. Rendez-vous compte, elle rentre de son opération avec sa flottille, elle arrive d'un claquement de doigts, en quelque sorte, à faire venir des milliers de personnes sur la place de la République. On est en train, pour le meilleur ou pour le pire, on est en train d'assister à l'émergence d'une figure politique nouvelle qui a une puissance de mobilisation incontestable.
Ah non, sur ce seul sujet. C'est ça qui est...
Et oui, et mono-sujet, parce qu'elle a déjà parlé d'autre chose.
Elle est arrivée quand même, elle s'est invitée dans la vie politique française en tête de liste des élections européennes. Et depuis
pas tête de liste, non, sur la liste.
Sur elle la était, liste ouais. des élections
mais
européennes,
en fait, elle a
pardon. Mais d'ailleurs, c'est voilà, mon avis, c'est révélateur, en effet. Voilà. Elle est devenue la tête de liste factuellement de toute cette campagne qui ne s'est fait que sur la question palestinienne. Et elle a une existence politique en France que sur cette question. Donc elle ne mobilise que sur cette question. Et ça, mais en effet, peut-être que la mairie a un moins invité une figure LFI que la figure de la cause palestinienne. Et en effet, moi, je pense pour le pire.
Ouais. Et on en parlait tout à l'heure avec Ofer Braunstein. Ce serait intéressant de savoir qui tire les ficelles derrière Rima Hassan. Vous avez vu beaucoup de d'eurodéputés, vous, faire, alors, pas avec la notoriété qu'elle a, mais effectivement, d'avoir qu'un seul couloir de qu'un seul couloir de nage, qu'un seul sujet.
Comme ça, elle n'a pas besoin d'argent en soi. Enfin, je veux dire, ça ne retire rien à votre question.
Quel est son intérêt?
Alors, mais je pense que les ficelles, elle les tire tout
seule. Pour le coup, je trouve. Alors, je pense qu'elle est complètement sincère, puisque son histoire familiale la relie directement à la Palestine. Donc, je pense qu'elle s'identifie complètement sincèrement à cette cause palestinienne. En revanche, ce qui est étonnant, c'est que des eurodéputés qui ont un seul sujet de prédilection.
Mais c'est ça!
Ça existe, mais alors que ce sujet de prédilection soit situé en dehors des frontières européennes, c'est autre chose.
C'est ça qui est effectivement, mais qui nous interpelle, enfin moi qui m'interpelle.
Et que LFI finisse par suivre le mouvement, je veux dire, en effet, elle a éclipsé quasiment le mouvement politique lui-même derrière son sujet à elle, et ça c'est et qui n'est pas français ni européen directement. C'est vrai que bon, elle est douée, ça au moins on peut le dire.
Oui.
Et son coup de com. C'est de la com, non?
C'est de la com. Alors, ceci dit, la communication, ça fait toujours partie de la politique et ça fait toujours partie des moyens d'action pour mobiliser autour d'une cause. Après, moi, je trouve qu'il y a quand même une certaine indécence de sa part.
Bien sûr.
Déjà, il y avait un contraste entre l'insouciance dont elle faisait preuve sur son bateau, même à son retour, tout sourire, et la dramatisation et le côté effectivement dramatique de la cause palestinienne. Moi, je trouve ça complètement indécent. Visiblement, ce n'est pas le cas des soutiens de la cause palestinienne qui, nombreux, viennent l'acclamer.
Une partie, en tout cas.
Voilà. Ouais.
Eh bien, merci beaucoup, Adrien Matous.
C'était
un plaisir de vous retrouver. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain, je pense.
Avec joie.
Adrien Bagé dit quoi? Il revient, Adrien Matous, le week-end prochain.
Est-ce qu'il a passé le...
Voilà, vous êtes programmé.
Ah non, c'est
moi. Ça fait plaisir de vous voir. Charles Dornelas aussi.
Moi aussi, ouf. Bon, cool.
Ouais, c'est, voilà. Donc, on se revoit le week-end prochain. Merci infiniment à vous deux.
Et on a hâte de savoir si on aura encore du soleil.
Ah ouais, mais non, mais le problème c'est qu'il est plutôt sur les orages là, notre ami Anthony Cazenave.
Oui, mais tant qu'il y a eu un orage cette nuit, il a fait beau aujourd'hui, donc moi.
Oui, mais ça pour vous, mais il n'y a pas que vous que la
relève.
Non, mais il y a moi quand même.
Charlotte est très jacobine. Je savais pas.
Mais la France, il y a des départements en vigilance orange, pas mal d'ailleurs.
Exactement, 18 départements en vigilance orange, entre le Massif central, l'Auvergne, la région lyonnaise, la Bourgogne, Champagne-Ardenne, Lorraine, jusqu'à 6h du matin. Donc soyez extrêmement vigilants. Demain, il y aura encore des orages sur un axe sud-ouest, centre-val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes encore et le nord-est. Et ces orages risquent d'être violents cette fois vers les Cévennes, la vallée du Rhône et la plaine d'Alsace. Partout ailleurs, ce sera comme aujourd'hui, une alternance de beaux passages ensoleillés et de quelques nuages. Peut-être 2-3 averses quand même demain vers l'Île-de-France. Vraiment en fin de journée, ce sera un tout petit risque d'averses. Et ce seront les dernières averses avant le retour d'un temps sec, ensoleillé partout dès lundi. Alors demain, les températures vont quand même bien baisser. Ce sera beaucoup plus respirable. 19 à Brest, 23 à Paris, à Lille et à Bordeaux, mais encore 31 degrés à Grenoble, 34 à Montpellier. Et puis donc à partir de lundi, la chaleur va se réinstaller, une chaleur qui sera raisonnable jusqu'à mercredi. Et puis à partir de jeudi, on risque de parler de fortes chaleurs, voire de canicule dans la moitié sud, puisque les nuits seront de plus en plus irrespirables. Donc soleil certes, mais une chaleur quand même très intense.
On est qu'au mois de juin.
Ah bah oui, bah écoutez, ça y est, ça s'installe pour de bon.
Ouais, ah mais quand j'étais petite, il faisait très chaud fin juin.
Et c'est vrai, mais pas la nuit. Parce que la canicule, ça ne descend pas la nuit.
C'est ça qui change
le problème.
Ouais. Ça, c'est l'urbanisation, c'est la ville. Ouais. C'est le béton qui recrache la chaleur.
Il fallait aller à la campagne.
Mais vous avez raison.
Ouais, oui.
Mais même à la campagne, maintenant, la canicule, ça ne change plus rien.
C'est quand même mieux. Quand même.
Bah, ça s'appelle le réchauffement climatique.
Ça,
je ne sais pas si vous êtes au courant. Voilà.